Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Pour être heureux en couple, doit-on nécessairement être les mêmes? Ou bien, au contraire, imbriquer parfaitement nos différences pour ne faire qu'un? Doit-on être deux personnes intelligentes ou bien deux personnes généreuses, deux personnes qui avons les mêmes idées? Et si les contraires s'attirent, en tout cas, ils n'attirent pas Manon.
Moi, je grandis à Nantes, donc dans l'ouest de la France, et je suis issue d'une famille très modeste. Ma maman nous fait un peu mère au foyer au début, puis garde des enfants, et mon papa est ouvrier. Donc, on grandit dans des appartements avec ma sœur, ma petite sœur. Et je rencontre en 2000, donc j'avais 3-4 ans à peu près, je rencontre José, qui est en fait mon voisin d'immeuble et qui a un an de plus que moi, donc il doit avoir 4-5 ans à cette époque-là. On se croise tous les matins pour aller à l'école. Nos mamans font vite connaissance vu qu'ils ont deux enfants chacun de leur côté dans le même âge, moi et ma sœur, et puis lui et son petit frère. Et on s'entend très bien, moi avec José et ma sœur avec son petit frère. C'est un petit garçon tout mignon, tout gentil, brun, avec les yeux pétillants. Et je me souviens qu'il avait un lit superposé. Il appelait ça son arbre, parce que c'était un peu un Tarzan. Et du coup, une fois, j'avais eu le droit à aller dans sa cachette secrète, dans son arbre. Et là, j'étais la plus heureuse du monde à me dire, oh là là, je suis privilégiée, etc. Et en fait, je m'en souviens plus très bien, parce que ça fait très longtemps. Et nos mères nous l'ont raconté. Je sais qu'à 3-4 ans, on a fini par se faire des petits bisous sur la bouche d'amoureux. Et pour moi, c'était mon amoureux. Et je pense que de son côté aussi, quoi. Et en 2003, donc 3-4 ans après, en fait, il déménage. On se dit au revoir une dernière fois. Et je crois d'ailleurs que la dernière fois que sa maman a voulu venir nous voir, nous, on n'était pas spécialement là. Donc en fait, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment lui dire au revoir. La cassure a été assez brutale et il y a eu comme un manque, en fait, comme quelque chose de manqué. Du coup, c'est en 2003 que je perds sa trace, quoi. 10 ans se passent, à peu près, donc moi je rentre au collège. Dès que j'ai Facebook, en fait, je le recherche. Je recherche sur Facebook avec son nom, son prénom, je le trouve pas. Et finalement, je retrouve sa maman. Elle se souvient de moi, elle se souvient de tout, forcément. Et je demande de ses nouvelles, je demande si lui, il a Facebook, mais non, à cette époque-là, en fait, il n'avait pas accès à ça. Et c'est seulement un an après que lui, je le retrouve, je l'ajoute en ami, et puis on a une toute petite discussion, j'étais un petit peu déçue, mais on a une petite discussion, en mode, ah, qu'est-ce que tu deviens, ça fait super longtemps, etc., etc. À ce moment-là, il a une photo, je crois, qui était un peu floue, mais je le reconnais, en fait, c'est le même petit garçon, toujours les cheveux bruns, toujours la même bouille, mais en plus homme, forcément, même s'il avait, je crois, à l'époque, allez, 16-17 ans. Il a changé, mais c'est toujours le José que j'ai connu quand j'avais 4-5 ans, quoi. Quand je leur contacte, je suis toute stressée, je suis hyper émue, et puis je me dis, waouh, est-ce qu'il va se souvenir de moi, comment ça va se passer, etc. Et je suis un peu déçue parce que lui, en fait, moi je suis très expressive quand je m'écris, mais lui pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression que bah il est content, mais sans plus. Je sais qu'on reparle des photos que nos parents avaient prises de nous quand on était petits, de certains moments de l'école, etc. Même si je m'en souviens plus très bien, on se souvient de cet état d'esprit. On en discute un peu, mais finalement, comme nos vies sont radicalement différentes aujourd'hui, la conversation, en fait, elle termine rapidement. Moi, j'ai une petite déception, mais bon, je me dis, au moins, j'ai renoué contact et c'est cool. Je suis au lycée à ce moment-là. Et c'est seulement un an après où on reprend contact. C'est lui qui vient me parler. « Oh, coucou, comment tu vas ?» Il est hyper enjoué. Et finalement, on commence à nouer petit à petit des liens. Je me souviens que un mois ou deux après nos retrouvailles, entre guillemets, on ne se voyait pas parce qu'il habitait encore très loin. On ne s'est pas vu pendant un long moment, mais c'était mon anniversaire. Et lui m'avait dit « Tu vas voir, le jour de ton anniversaire, je t'offrirai des fleurs. » Sauf que on était adolescents, on était ruinés, on n'avait pas d'argent. Et le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un espèce de gif de fleurs hyper kitsch, mais c'était trop mignon et j'étais hyper touchée, je me sentais un peu l'élu très unique à ce moment-là et c'est là que j'ai commencé à me dire ah il y a peut-être un truc en fait entre nous vu qu'on se parle super souvent, on avait renoué quelque chose en fait qui avait été cassé et je pense que des deux côtés on l'a ressenti à ce moment-là. On commence à passer nos soirées sur Skype tous les deux, donc lui il sait jouer de la guitare, moi je sais pas en jouer mais j'en ai une, donc il commence à m'apprendre, il me chante des chansons, on parle de tout et de rien jusqu'à super tard, et puis après il y a ses copains qui s'invitent dans nos visios et finalement ça termine en groupe de copains et je suis très très vite intégrée. Cette relation en fait elle est que par écran interposé forcément parce qu'il habite loin, moi j'ai pas de voiture, lui non plus, c'est un peu impossible. Et en fait en 2013 il arrive sur Nantes en fait, il a eu son bac et il commence des études de paysagiste. Et donc il prend un appartement, il a son meilleur ami en coloc etc. Et au moment où il sait qu'il va aller sur Nantes, il me dit mais j'arrive sur Nantes, dès la rentrée on se voit, on se revoit, on pourra passer des moments ensemble et tout, ça va être super chouette. Et donc moi, dans ma tête, je me faisais des illusions. Je me disais, mais c'est pas possible. Jamais il se retournera vers une fille comme moi. C'était quelqu'un de très populaire dans son lycée. Il y avait beaucoup de filles qui étaient en crush sur lui. Et je me disais, mais bon, il va me voir, il va être déçu. Parce que bon, peut-être entre ce qu'on voit par webcam et ce qu'on voit en vrai, il va pas avoir le crush comme moi j'ai eu. Et puis je vais me faire des idées et puis je vais me prendre un râteau comme d'habitude, quoi. Il y a une espèce de relation de séduction qui se crée entre nous, mais très adolescente. Donc, d'un côté, je me disais, bon, peut-être qu'il m'aime comme une petite sœur, peut-être qu'il n'y a pas tout ce lien. Et donc, j'attends, en fait. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il ressent, et je ne sais pas si c'est ambigu. Enfin, pour moi, ça l'est, je ressens des choses, mais lui, je ne sais pas. On se retrouve en vrai en septembre 2013, donc ça fait 10 ans qu'il a déménagé, ça fait 6 mois qu'on parle par écran interposé. Et à ce moment-là, je me souviens du trajet, je me souviens du stress que j'avais, à me faire des films, etc. Et on se voit, on se fait la bise. Et quand je le vois, je me dis, mais il est super beau, il est comme dans mes souvenirs, mais en fait, c'est un peu comme si je le revoyais enfant. C'est très bizarre de dire ça, mais avec ce truc d'adulte en plus, en fait. Mais je retrouve le José d'il y a 10 ans et on passe, je pense, 1h30, 2h ensemble à faire les magasins parce que lui avait besoin de choses pour ses études. Et dans le magasin de sport, donc il y avait son meilleur ami qui s'était incrusté avec nous, qui était assez collant. Dans ce magasin, il arrive et puis il me fait tourbillonner, il me prend dans ses bras, il me fait renverser, en fait. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et après, il m'enlace. Je me dis, mais il y a un truc, en fait. Je suis pas folle. Il est en train d'avoir un truc tactile avec moi et il se passe quelque chose, quoi. Et finalement, je repars. Et quand je rentre chez moi, j'ai ces papillons dans le ventre. Je suis hyper euphorique. Je suis comme si rien ne pouvait me rendre triste, en colère ou malheureuse. J'étais dans mon état, en fait. J'étais dans ma bulle. Et je pense que même mes parents l'ont vu. Ils m'ont demandé, alors, comment il va José? Est-ce qu'il a changé, etc. Ils m'ont posé plein de questions. Et ils voyaient que j'étais hyper heureuse, en fait, de ce moment-là. Et j'attendais qu'une chose, c'était le revoir, quoi. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du handball. J'étais très sportive et je me blesse à un match. Et je finis avec un plâtre pendant un mois, donc impossible de revoir mon tendre José pendant un mois. C'était hyper long. Mais on continue à s'envoyer des messages tous les jours, on continue à se faire des visios, etc. En fait, on retourne dans cette période où on se voyait pas comme avant, en fait, où on se faisait que des Skype, que des visios tous les soirs, tous les soirs. Moi, à ce moment-là, je suis au lycée, je suis en première, donc ça se passe plutôt bien. Et petit à petit, en fait, on reprend les visites. Donc je vais le voir tous les lundis. On se voit pendant 1h30, 2h. On se balade beaucoup, on fait beaucoup de choses ensemble. À Halloween, en fait, lui, il organise une soirée et il me dit « Mais viens, je t'invite, tu connais déjà mes copains, viens à la maison et tout, ça sera soirée déguisée. » Donc moi, je me dis « Ouais, j'ai jamais fait Halloween de ma vie, je sais pas comment je vais m'habiller et tout. » Avec ma mère, on part faire du shopping et puis je me dis « Mais Halloween, on s'habille en zombie et tout, moi je veux pas être moche pour le revoir, pour qu'il soit séduite par moi, donc faut que je choisisse un truc sympa, quoi. » Et je finis déguisée en princesse qui n'a aucun rapport avec le thème. Bref, on va à la soirée, je vais à la soirée et il me trouve super belle, magnifique, je vois des étoiles dans ses yeux. La soirée se passe très bien, mais il n'y a pas de bisous parce que lui, il boit. Et sa meilleure amie vient me voir et me dit « Bah écoute, José, il a bu, il veut pas t'embrasser parce qu'il a vraiment envie que ce moment soit unique. » Et moi, j'étais « Waouh, en fait, il est vraiment amoureux de moi parce qu'il m'a jamais parlé de ce genre de choses. » Le 11 novembre, donc jour férié, donc c'est cool pour nous parce qu'on peut sortir, etc. On va en ville. Et il y a un truc en plus à ce moment-là, je sais pas l'expliquer, mais je sens qu'il a beaucoup d'attention vers moi, je sens qu'il est très doux, qu'il y a un truc, qu'il prépare quelque chose, et je me souviendrai toute ma vie, hein, c'était au Jardin des Plantes, et il commence par m'embrasser la joue gauche, le front, la joue droite, et ensuite il finit sur mes lèvres. Et là je me dis, oula, il se passe un truc là, c'est mon premier baiser, je comprends pas vraiment ce qui se passe, je comprends pas vraiment où je suis, ce que je fais. Et tout de suite après, on se dit, je t'aime. La journée passe et on est collés l'un à l'autre, on n'arrive pas à se décoller. Et les mois passent, on se voit toujours tous les lundis, c'est toujours aussi fort. Et à Pâques, donc en 2014, 6 mois après, il me présente sa famille. Donc ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tantes, etc. qui sont très 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 importants pour lui, il est très très famille. Et donc je m'intègre assez facilement et assez rapidement à sa famille. Alors forcément, bah, mes parents connaissent les siens, ses parents me connaissent, c'est comme si on s'était pas vu depuis 2 mois. Et ils sont super en confiance parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mes parents, en fait, ils savent d'où je viens, ils savent où je suis, en fait, ils savent tout. Il y a ce lien qui est noué très vite et on se raconte des anecdotes, ses parents me montrent des photos de nous deux, des choses comme ça, donc tout est fait très vite et la confiance est là. Et mes parents, qui sont d'ailleurs très très stressés de la vie, très craintifs et tout, dès qu'ils sont au courant que je sors avec ce José, ils sont super contents, il a déjà sa place dans la famille en fait. Et ils sont en confiance. Donc José, en fait, c'est mon premier amour, c'est la base de tout. Parce que je le connais depuis que j'ai 2-3 ans, on s'est perdu de vue. Pour moi, c'était un peu le prince charmant, un peu comme dans les Disney, je crois, où je me dis, c'est lui, c'est mon âme sœur, c'est le garçon avec lequel je vais me marier. Et même quand on se met ensemble, il me dit, mais t'es pas comme les autres. Et même quand on raconte notre histoire à des gens de la famille, à nos copains, etc., ils disent « Waouh, mais c'est un truc de ouf, enfin, franchement, c'est une histoire unique, ça peut que bien se terminer finalement. » Un an après, donc j'ai 18 ans, etc., je commence mes études supérieures. Moi, je reste sur Nantes, lui aussi, mais on n'habite pas ensemble, en fait. Moi, je suis chez mes parents, lui, il a son appart, tout se passe très bien, on se voit tous les week-ends, etc. Et les années passent, et au bout d'un moment, en fait, il doit terminer ses études en paysage sur Nancy. Donc, il part, en fait, pendant un an, à l'autre bout de la France. Et c'est très 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 compliqué cette séparation parce que j'ai pas l'habitude et je me souviens les premiers mois ont été très compliqués, je pleurais très souvent, je voulais qu'ils reviennent, je savais pas quoi faire, je me sentais perdue en fait. Quand tu reviens, on emménage ensemble quoi, Donc lui, il termine ses études, il a réussi son diplôme et on prend un appartement près de sa famille à lui parce que moi, je trouve un boulot. Donc là, à ce moment-là, je suis en alternance. Ma première alternance s'est pas bien passée et donc je décide de changer d'entreprise et je trouve un poste pas trop loin de sa famille. Et donc on déménage dans notre premier appartement tous les deux et on est hyper euphorique. Moi, quand je sais que j'ai cette opportunité de poste, je suis à la fois hyper contente parce que je me dis que c'est le poste de mes rêves, mais vu que je suis très angoissée dans ma vie et que je n'ai jamais quitté le cocon familial, je me mets à être triste de quitter la famille. Donc j'en pleure quand j'annonce la nouvelle. Très vite, le quotidien s'installe. Donc au début, en fait, il a pas d'emploi parce que dans la région, c'est un peu compliqué de trouver dans la branche où il est lui. Et finalement, il trouve un travail dans une usine. Donc sa mère le prend un peu mal au début en disant « Mais t'as fait un bac plus 3, pourquoi tu termines dans une usine de matelas ? C'est pas ton plan de carrière. » Et en fait, lui s'épanouit de manière exponentielle. En fait, je l'ai jamais vu comme ça. Et même, je le dis à sa mère, je dis « Mais en fait, il est heureux. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je viens d'une famille d'ouvriers. Ça change rien pour moi tant qu'il est heureux, tant qu'il est bien dans son travail. » Et très vite, il monte les échelons, mais il travaille en 2-8, donc très tôt le matin et très tard le soir. Ça dépend, une semaine sur deux. Et moi, je me retrouve toute seule. Donc, j'ai ce poste que je commence. Mon travail commence très vite à tourner au vinaigre. Je commence à pas me sentir bien, à avoir un peu ma bosse sur le dos. Je commence à être un peu harcelée au travail. Et je rentre le soir et lui n'est pas là. Donc, mon pilier n'est pas là. Je me sens seule. Et je répercute ça dans la nourriture, à rentrer, à liquider tout ce qu'il y a dans les placards, jusqu'à n'en plus avoir faim et même plus après, devant la télé, quoi. Donc je me sens seule, je prends beaucoup de poids, parce que forcément je mange beaucoup, je ne fais pas de sport, j'angoisse énormément. Et lui, je le vois très peu. Donc soit le matin, il part très tôt, donc je ne l'ai pas avec moi quand je me réveille, soit il rentre à 22-23 heures, et finalement c'est à l'heure à laquelle je vais me coucher, donc on vit en décalé. On vit ensemble, mais pas vraiment en fait. Mais on n'en parle pas parce que moi, je suis un espèce de caméléon, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir cette norme. Je me suis jamais sentie comme les autres, je me suis jamais sentie comme faisant partie de ce groupe d'humains, comme mes amis par exemple. Je me suis toujours sentie un peu à part, comme s'il y avait une paroi entre nous, que eux ne voyaient pas, mais que moi je voyais. Et je me disais juste, bon ben, je veux vraiment juste la vie parfaite en fait. Moi au lycée, mon ambition c'était d'avoir un travail, de travailler dans la même entreprise toute ma vie comme mon père, d'avoir un mari, donc ben, José en fait, c'était le mari idéal, donc de me marier avec lui, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, d'avoir un chien. Et ça c'était notre projet. Donc je me disais, bon ben, c'est juste une petite passade et j'aurai mon projet. J'étais l'amie parfaite, j'étais la petite amie parfaite, j'étais la belle-fille parfaite avec ma belle famille. Je faisais tout pour, mais je m'en rendais pas compte en fait. Je me disais, c'est juste ma vie doit être comme ça. J'étais dans le contrôle total et je me mentais énormément à moi-même à ce moment-là, ce que j'appelle ma période caméléon en fait. Et plus les semaines passent, plus je me rends compte que je suis pas, la fiche de poste ne correspond pas en fait à ce que je devrais faire. Je me retrouve à faire des colis dans l'usine alors que c'était clairement pas mon travail. Moi, je suis assistante chef de projet e-commerce, donc mon but c'est de gérer un site, c'est de gérer des réseaux sociaux ou des clients. Je me retrouve à corriger des trucs de comptabilité, je me retrouve à faire tout et n'importe quoi. Et en fait, ça ne me correspond pas. Donc je commence à être très malheureuse dans mon travail. Lui est très épanoui dans le sien. Donc il y a un fossé qui commence à se creuser. Les semaines commencent à passer et moi, en fait, dans le cadre de mes études, j'ai un challenge où on doit créer un site web et faire en sorte qu'il soit visible dans Google. Et pour ce challenge-là, on ne doit pas débourser d'argent. Donc je vais sur un groupe Facebook qui est dédié à ça, s'appelle les SEO, voilà, c'est le nom de ce métier-là. Et je poste un message en disant, ben voilà, bonjour, dans le cadre d'un projet pour l'école, je dois faire ça, mais en fait j'ai besoin d'un échange, en fait, un système de troc, puisque je ne peux pas dépenser d'argent. Donc voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait chouette. Et dans ce groupe-là, personne ne me répond, sauf une personne, et cette personne s'appelle Claude. Il me fait ça gratuitement sans rien demander parce qu'il se rend compte que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et très vite, en fait, instaure une discussion où il m'apprend énormément de choses que j'apprends pas du tout à l'école. Et il me donne tout ça gratuitement sans rien attendre. Donc moi, je bossais énormément sur mon truc, je suis très très motivée. Et même lui, il me dit, mais j'ai déjà eu des stagiaires, parce que lui, en fait, il a une agence, il est chef d'entreprise. Il me dit, j'ai déjà eu des stagiaires à qui j'ai appris les trucs, mais je les ai jamais sentis aussi motivés que toi et aussi intéressés par le sujet. Donc forcément, ben, même moi, en fait, ça m'intéresse encore plus. Moi, je passe toutes mes soirées dessus, jusqu'à 23h. Je rédige des articles, je m'occupe de mon site, etc., etc. D'un côté, je suis hyper passionnée, je suis hyper emballée, et la conversation avec Claude s'instaure, et j'apprends énormément de choses, et la conversation commence à dévier sur des choses plus personnelles. Et puis, petit à petit, voilà, on parle de mon école, on parle de ma vie, de où je viens. Lui, il habite en Belgique, donc il est déjà pas à côté de chez moi. Il a 20 ans de plus, donc il a clairement pas la même vie. Il a 2 enfants. Il est en couple depuis plus de 10 ans. Et tout se passe bien dans sa vie, tout se passe bien dans ma vie. Donc on parle de ça, il m'apprend beaucoup de choses sur la vie, sur les relations humaines. Je sais pas à partir de quand la conversation a clairement dévié ou on a commencé à parler de tout et n'importe quoi et de trouver en fait qu'on avait énormément de points communs, même dans les sujets de conversation, dans la manière d'aborder les choses. Et là, j'ai commencé à me dire, mais waouh, c'est fou. Même j'en parle à José, je dis, mais attends, il est incroyable ce gars. On parle de tout et de rien, j'ai l'impression de me voir moi. Et j'ai l'impression en fait qu'il me comprend. Et c'est la première fois que je me sens comprise en fait. J'ai toujours eu ce sentiment de décalage, toujours eu ce truc où je devais m'adapter aux autres, comme si j'avais un enfant de 5 ans en face de moi et je devais m'adapter à son langage. Là, je parle avec un adulte et la conversation est très fluide. Mais il y a quelque chose de sous-jacent qui arrive, c'est-à-dire que je commence à me dire, mais ouais, il est hyper intéressant. Dans les conversations, je me dis, mais il est incroyable. Et je commence à ressentir ces fameux papillons dans le ventre que je n'avais pas ressenti depuis José, quoi. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi, c'est-à-dire qui fonctionne de la même manière que moi et avec laquelle je n'ai pas à m'adapter sans cesse, en fait. Quelqu'un qui, même dans sa manière de réfléchir, à ce comportement similaire au mien. Je me bride, en fait. J'essaye de ne pas être moi-même. J'ai toujours ce caméléon, donc j'essaye de me conformer à tout. Et d'ailleurs, ça a été un des sujets assez bouleversants de ma vie. C'est que du jour au lendemain, on parlait, je ne sais même pas de quoi. Et un jour, Claude me dit, mais au fait, Manon, tu sais que t'es HP? Je dis, mais de quoi tu me parles? C'est quoi ce truc-là? HP, ça veut dire quoi? Bah, haut potentiel, tu sais, c'est des trucs de surdoué et tout. Je dis, mais non, pas du tout. J'ai toujours été moyenne à l'école, je connais rien, je me prenais un peu. Enfin, pour moi, j'étais débile, quoi. Même José parfois me disait, mais ça, tu connais pas, mais tu sors d'où, quoi? J'ai toujours été nulle en maths, j'ai pas été super bonne à l'école. Je commence à creuser ce sujet et là, je rentre dans un gouffre, dans un puits sans fond, où je passe une partie de la nuit à me renseigner sur ça. Je me dis, mais oh, c'est un truc de fou, c'est la révélation, en fait. Je me dis, mais waouh, c'est ça, ce truc de sentiment de décalage. Mais le caméléon, mais en fait, c'est ça en fait le truc où je veux, quand je veux sympathiser avec quelqu'un, j'aime tous les morceaux de musique qu'il aime, je m'intéresse à son chanteur préféré, à sa série préférée, je fais tout et j'aime ça. Mais en fait, c'est une découverte de fou en fait. Et donc, je commence à avoir ce truc de haut potentiel dans la tête. Donc, je lis beaucoup de blogs, il y a beaucoup de choses fausses dessus. Donc, je commence à douter, à avoir ce syndrome de l'imposteur, à me dire, mais non, je ne le suis pas. Peut-être que je ne suis pas, je ne sais pas, je suis nulle. Et je commence à en parler à José. En fait, je me dis, mais écoute, Claude m'a dit quelque chose là, c'est un truc de fou. Apparemment, je serais haut potentiel. Donc, lui, il ne connaît pas, donc je lui explique. Claude, lui, arrive à me détecter parce que bah, lui, il est haut potentiel, il est ce qu'on appelle THPI. Pour être HP, il faut avoir 130 de QI, la moyenne c'est entre 90 et 110, donc 130 c'est déjà pas mal. Mais lui, il est THPI, donc il a plus de 140, 145, il est je crois à 146, un truc comme ça, donc, ce qui est énorme. Et en fait, c'est au bout de 3 mois de conversation qui me sort cette fameuse phrase. Donc quand je commence à avoir ce truc de haut potentiel, je lis beaucoup de livres, je me renseigne beaucoup, je doute beaucoup, j'en parle à mon entourage, parce que moi forcément, je commence à y croire de plus en plus. Et j'ai un entourage qui est assez réticent. Et finalement, en fait, comme je vois que tout le monde est réticent, je me mure dans un espèce de silence où, en fait, j'en parle qu'à Claude, parce que lui me comprend. Je passe pas le test tout de suite, parce que c'est un coût, hein. C'est à peu près 300 euros pour passer le test. Et moi, je suis étudiante, j'ai un appartement, j'ai un crédit voiture. C'est pas possible pour moi. Avec Claude, comme on a ce point commun de haut potentiel et ces innombrables conversations où on se retrouve énormément, la relation évolue et c'est quand je découvre ce truc de haut potentiel, très peu de temps après, je lui dis que j'ai des sentiments pour lui, ce qui m'empêche pas d'aimer José aussi, mais je ressens quelque chose pour lui. Donc j'en parle à José. Je lui ai toujours dit, quand il y avait des choses qui me trottaient dans la tête, j'ai toujours été très transparente avec lui et je lui dis dès le début, je lui dis écoute, je commence à ressentir des sentiments pour Claude, c'est une forme d'amour, mais c'est pas le même amour que toi en fait, c'est totalement différent et je pourrais pas te l'expliquer. Et lui, il panique pas, d'ailleurs je comprends pas pourquoi, mais lui ne... ou alors il m'en fait pas part, hein. Il y a toujours ce truc où il est très... il se retient beaucoup dans ses émotions, mais il me dit rien, il regarde même pas mes conversations, il me pose pas de questions, il me dit ah, ok d'accord... les mois avancent, on est en 2018, hein, je suis toujours en études, et puis le fossé commence à se creuser entre moi et José, parce que lui, il est très famille, moi, je commence à en avoir marre d'aller tous les week-ends chez les parents, chez les grands-parents, même si je les aime énormément, hein, c'est ma famille, mais j'ai pas besoin de les voir autant que lui. J'ai mes études, donc j'ai mes devoirs, je commence à me dire que bah ça fait deux entreprises dans lesquelles je me sens pas bien. Il va falloir que je songe peut-être à devenir auto-entrepreneuse. Et là, je commence à en parler à José en lui disant « Mais ça va impacter beaucoup de choses parce qu'il va falloir que je travaille le week-end, il va falloir que, voilà, que je travaille énormément. » Et lui, il se dit « Ok, pas de souci, ça va être cool. » Et puis après, il commence à me dire « Ah oui, mais bon, tu travailles trop. » Et puis même pour les enfants, si on a des enfants, si on se marie, ça va être compliqué, etc. etc. J'ai 22 ans à ce moment-là. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants tout de suite. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le Canada, c'est mon rêve. J'ai envie de profiter, j'ai pas envie de me marier, d'acheter une maison et d'avoir un enfant tout de suite après mes études, quoi. Et lui, il ne comprend pas. Donc on grandit ensemble, mais séparément, avec des projets de vie totalement différents. Il n'y a plus cette magie des débuts, il n'y a plus cette étincelle, en fait. On est devenu un couple normé. Je n'étais plus en couple même avec José, à la fin, j'étais en couple avec mon groupe d'amis. Claude, lui, il est dans une vie où il est très heureux. Il a plusieurs entreprises, il a sa femme, enfin sa compagne, parce qu'il n'est pas marié, il a ses enfants. Il est bien, il est très en accord avec les sentiments qu'il a pour moi, mais il est avec sa compagne, donc il y a à aucun moment, même lui, il m'a toujours dit, à aucun moment j'aurais misé sur nous, en fait. Il n'y a rien qui se passe, on a des sentiments l'un pour l'autre, ok, mais on ne pourra pas être en couple, parce qu'on est dans deux pays différents, on a des vies totalement différentes. Fin 2018, il me dit... Dans 2 mois, je viens à Nantes. Je lui dis, bah non, parce que moi, je veux pas le voir. Moi, on s'échange juste par message, en fait. On se fait même pas de vocaux au début. Je veux juste rester par écrit. Et lui, il commence à jouer de ça et à m'envoyer des vocaux. Je lui dis, oh, j'ai entendu sa voix, donc je commence à paniquer. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est totalement débile. Mais voilà, il me dit, dans 2 mois, j'arrive sur Nantes. J'ai pris mes billets. Je lui dis, mais t'es fou. Et donc, bah, j'ai pas le choix, en fait. Je suis devant le fait accompli. Et je dis à José, je dis, écoute, il y a Claude qui arrive dans 2 mois, il va falloir que, bah, on l'héberge, quoi. Donc, début 2019 arrive, et il arrive sur Nantes, et la rencontre est là, et il n'y a pas de coup de foudre, alors, ni de son côté, ni du mien. Je sors de l'école, je vais le chercher, on va chez moi déposer ses affaires, on devait aller tous les 3, moi, lui et José, au restaurant le soir, et José m'envoie un message, et me dit, écoute, là j'ai un repas avec la cousine de ma mamie, ouais, je vous laisse aller au resto, moi je ne serai pas là. Et je me dis, mais il est bête ou quoi? J'ai des sentiments pour ce gars-là, et il me laisse toute seule, mais il fait quoi, en fait? On se retrouve la première soirée à Nantes, dans un resto, tous les deux, en tête-à-tête. Et là, on commence à renouer, en fait, comme sur Internet. Au bout de 2-3 heures, tout se cale, et on continue nos échanges. Là, on les avait terminés la veille, quoi, avant qu'il arrive. Et le matin, le lendemain matin, je dois lui faire découvrir ma région, donc la Baule, la mer, etc. Et on finit le dimanche sur Nantes, mais le samedi, en fait, on le passe tous les deux, parce que José n'a pas envie de se lever, José veut passer sa journée sur sa PS4. Je pense pas qu'il prenne ça de manière très bizarre. Pour lui, on a juste un pote qui vient à la maison, un pote qui a 20 ans de plus et tout, qui n'est pas du tout de notre groupe de potes, mais non, je crois que ça le dérange pas. C'est très bizarre. Quand il repart de Nantes, moi, j'ai pas ces sentiments amoureux, en fait. C'est comme si j'étais tombée amoureuse de quelqu'un en virtuel, mais qu'en réel, c'était pas le cas. Et quand il repart, je me dis, bon, c'est bon, en fait, ma vie va pouvoir reprendre son cours, y a pas de souci. Et les choses se passent, et lui, en fait, il revient une semaine après. Alors, il avait jamais mis les pieds à Nantes avant notre rencontre, et je ne sais pas pourquoi, pour le boulot, et c'est vrai, en plus, il avait un événement sur Nantes une semaine après, ou 2 semaines après. Et donc, il revient sur Nantes, et on décide de se revoir... Lui, il est plus en couple depuis 2-3 semaines. Il s'est séparé très brutalement avec sa compagne, pas à cause de moi, à cause d'autres raisons. Donc lui, il est célibataire. Et finalement, il se dit que peut-être il y a des choses qui pourraient se passer entre nous, parce qu'il y a ce contact, etc. Lui, il avance dans sa vie, donc il a toujours ses entreprises, mais il a le projet de partir en Andorre, parce qu'il a envie de changer totalement. Donc... on va dîner dans le même restaurant. Donc même d'ailleurs, je préviens José, je lui dis, bah, écoute, Claude est sur Nantes, ce soir je vais dîner avec lui au resto. Il me dit, oui, pas de souci, ok, amuse-toi bien. On parle, on boit beaucoup. Et Morito frais, c'est notre boisson. Donc on rigole beaucoup. Et puis voilà, quoi, le lendemain, il a son avion en fin de matinée, donc globalement tôt. Donc je lui propose de le raccompagner à l'aéroport, de reprendre ma voiture et de l'accompagner. Il me dit ok, pas de souci. Donc je dis ok, demain matin à 8h, on prend le petit déj ensemble et puis on fait un petit tour en ville et ensuite je te raccompagne à l'aéroport. Et on prend le petit déj et on arrive devant un monument nantais, si je puis dire, qui est l'éléphant de Nantes, qui est un des symboles de la ville et sur lequel j'avais basé mon site. Donc depuis le début, en fait, c'est un peu le fil conducteur. Lui, il avait vu l'éléphant de Nantes en long, en large, en travers sur mon site. Et là, on arrive devant le truc et il me dit « Waouh, c'est incroyable, c'est notre truc, quoi !» Et on s'assoit sur un banc, il met sa main autour de mes épaules et il m'enlace. Et là, il y a un truc qui se passe, alors qu'il n'y avait rien avant, il n'y avait rien du tout. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est comme si le temps s'était arrêté, je me sens bien, je me sens dans une bulle. Tout ce qui se passe autour s'arrête. Tout ce qu'il y a autour, ça n'existe plus. Je ne suis plus avec José, je n'ai pas de famille. Je suis juste devant un éléphant en bois, sur un banc, avec Claude. Et je ne pense qu'à ça à ce moment-là. Et je ne sais même pas combien de temps ça dure, mais il y a un moment donné, il faut que je le raccompagne à l'aéroport. Il prend l'avion, et quand il atterrit à Bruxelles, il me dit « Mais c'était quoi ce moment à l'éléphant ? C'était magique. Tu l'as ressenti ?» Je dis « Ouais, moi aussi, je l'ai ressenti. » Et là... Là, ça sent pas bon, quoi, parce que je suis en couple. Moi, je me refuse à quitter José parce que je m'accroche à ce rêve, je commence à avoir peur de l'engagement, de tout. Hein. Je me dis, je ne peux pas me marier avec lui, c'est pas possible. Et durant ce mois de février, en fait, il se passe beaucoup de choses. Il se passe que la relation avec mes parents se dégrade. Bon, déjà, c'était un peu bizarre, mais là, j'apprends en fait qu'il fouille mes conversations avec Claude. Parce que forcément, il a 20 ans de plus, ça fait peur, il habite en Belgique, Mes parents sont très très craintifs, donc ils ont eu accès à mes conversations sur un ordi que je n'avais pas, je ne m'étais pas déconnectée apparemment. Et ils lisent ces conversations. Et quand je découvre ça, je sais au final que ma vie privée a été divulguée auprès de ma famille, auprès de mes amis. Et dès que j'apprends que mes parents fouillent mes conversations, je coupe contact pendant plusieurs mois. Donc je retourne en Belgique, hein, 2 semaines après ce truc-là, je suis encore un peu choquée. Je vais en Belgique parce qu'en fait j'ai un deuxième projet, ça c'est mon projet de fin d'études de Master 2. Et on devait trouver une entreprise et faire une étude dessus. Et j'avais déjà trouvé des entreprises à Nantes, etc. Mais le projet ne convenait pas à l'école. Donc moi, finalement, je dis à Claude, je dis, c'est pas possible, j'arrive pas à trouver. Il me dit, mais fais-le sur ma boîte, en fait. Ok, d'accord. Donc c'est très fluide. Donc il me paye un billet d'avion et je viens passer 3 jours en Belgique. Je reste chez lui, hein, je dors chez lui, etc. Parce que, comme lui est venu chez moi, moi je viens chez lui, j'ai pas suffisamment d'argent pour me prendre un hôtel. Et ça se passe bien. Et là, commence à avoir des petits trucs, des mains sur l'épaule, des petits câlins et tout. Je sens que lui, en fait, il entame un rapprochement. Et là, je commence à me prendre peur. Je dis, mais voilà, c'est bizarre. Et le soir même, on passe la soirée, je bois un peu, mais pas de là à être totalement défoncée, quoi. Je suis juste contente et on s'embrasse. Et là, c'est les problèmes, mais tout de suite sur le moment, je me dis wow, c'est incroyable, c'est un baiser incroyable. Là, il y a tout l'amour en fait. C'est comme si nos bouches s'étaient aimantées et on pouvait plus se décoller, on avait besoin de ce contact physique, c'était fusionnel en fait. Il y a tout de suite des comportements de couple où on se fait des bisous, on se fait des câlins, c'est très fluide entre nous et le moment de partir arrive hein, et on est très triste. Moi, je rentre dans l'avion et j'ai envie de pleurer, donc forcément je me retiens parce que je suis pas du genre à pleurer devant tout le monde, mais le voyage est très solitaire, très triste. Je rentre, je retrouve José et là... Je ne suis pas naturelle, en fait, j'ose pas lui dire ce qui s'est passé, que y a eu une certaine tromperie, hein, dans un sens. Et je lui dis rien pendant une semaine, mais par contre, je ne fais plus d'attention physique envers lui. Déjà, j'en avais de moins en moins avec le temps, mais là, je ne lui fais plus de bisous, je ne fais plus de câlins, je rejette les rapprochements physiques. Et au bout d'une semaine, en fait, je craque et je lui explique tout. Donc lui, forcément, il est pas bien. Il est triste, mais il dit rien. Et vient la question du qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on se sépare? Et moi, j'ai envie d'essayer encore. Je me dis, c'est pas possible. Donc, voilà ce qu'il me dit. Il me fait, t'arrêtes de lui parler. Je dis, ok. J'arrête de lui parler. Et puis moi, je lui dis, j'aimerais bien que tu nous organises un week-end un peu loin de tout. En fait, j'ai essayé de tester sa motivation pour rester avec moi parce que c'était tellement routinier. Donc, je lui dis, voilà, bah, je te laisse organiser ça. Et il ne l'a jamais organisé. Donc, mon histoire avec José s'arrête de manière assez brutale parce que bah, je suis dans l'appartement, je fais mes trucs. Et puis, je lui pose une question. Je ne sais plus ce que je lui pose. Et il me dit, mais de toute façon, on n'est plus ensemble. Et je lui dis, ah, d'accord, je ne savais pas en fait. Et là, on s'allonge sur le lit tous les deux et on est triste. Mais on est triste de se séparer parce que c'est mon pilier. Et je suis, je pense, un de ses piliers aussi. Et c'est très bizarre, mais il n'y a plus rien entre nous. Il n'y a plus rien. Il y a beaucoup d'amour, mais je ne suis plus amoureuse. Et je ne sais pas s'il est encore amoureux lui aussi. Mais lui, donc José déménage au bout de 2 mois. Et je me raccroche à Claude, en fait. Je vois une psychologue entre-temps hein, pour m'aider parce que ça va pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais après mes études parce que je suis en fin d'études. Je suis dans une situation où je me sens pas bien parce que je me sens toujours en décalage. Et puis, lui déménage en Andorre en juin 2019. Je passe Pâques normalement toute seule. Et Claude me dit, mais viens passer Pâques avec moi. Il y aura les enfants. Donc, je dis, ok. On a débuté une relation amoureuse depuis un mois à peu près. Donc c'est très 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 tôt. Et puis on passe Pâques ensemble et je rencontre son petit, donc Louis, qui a 4 ans à ce moment-là. Et ensuite, en fait, il est tout petit, donc il est très timide. Et puis finalement, ça se passe bien. Je joue avec lui, on regarde des dessins animés tous ensemble, ça se passe bien. Et la fin du week-end, je rencontre son deuxième fils, qui est d'une autre maman, qui a 15 ans à ce moment-là, donc on n'a que 8 ans de différence, donc ça fait un peu bizarre, hein. Mais le lien se crée en fait, le lien se crée petit à petit, et même si je suis très jeune, donc le petit ne le voit pas forcément, parce que lui il a 3-4 ans, donc lui moi je suis un adulte, pour lui ça s'arrête là, mais avec le grand en fait on arrive à se trouver des hobbies, donc on regarde les mêmes youtubeurs, je capte les références qu'il a de sa génération et tout, donc tout se passe très bien. Forcément, moi, au début de la relation, je me renseigne beaucoup parce qu'on a 20 ans d'écart, ce qui est beaucoup, donc je me renseigne sur des témoignages. Comme j'ai fait pour le haut potentiel, en fait, je me renseigne énormément sur Internet. Et on réfléchit, hein. Est-ce que je veux juste être avec lui? Lui, il est très jeune dans sa tête. Moi, on m'a toujours pris pour une personne un peu plus âgée, donc en fait, on se rejoint, voilà. À des chemins croisés, on se rejoint, on est toujours complémentaires. Mais on se pose la question, donc est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que ça va marcher? Finalement, je crois que la question ne se pose même pas. Enfin, quand lui emménage en Andorre, je passe la frontière avec lui, je passe un week-end avec lui, et j'arrive, et le premier matin, je m'en souviendrai toute ma vie, je me réveille devant des montagnes incroyables, j'ai jamais vu de montagne de ma vie. Je me dis, mais c'est hyper paisible, en fait, ici. Je me verrais bien vivre un jour dans ce pays, ici. Mais la question se pose pas, parce que moi, je veux partir de Nantes, c'est certain. Et je me décide à partir sur Toulouse parce que c'est à 1 heure de Nantes en avion et c'est à 3 heures de l'Andorre, donc c'est un bon compromis. Je recherche des appartements, je ne trouve pas. Et en parallèle, en fait, je me dis, bon, bah là, t'as tout fait. T'as regardé tous les trucs sur le haut potentiel, t'as tout vu, en fait, ma grande, donc il faut que tu passes les tests. Donc j'ai économisé pendant des mois. Je prends rendez-vous chez une psychologue réputée, enfin une neuropsychologue à Nantes. J'envoie un mail, parce qu'il faut envoyer un mail sur pourquoi on veut passer le test, quelle a été notre enfance, nos soucis, etc. Je parle de harcèlement, je parle de décalage, je parle de tout ça. Et je rentre dans ce bureau. Déjà, je tremble, mais je tremble réellement. Je sais pas pourquoi, j'ai des spasmes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je doute. Et le premier rendez-vous se passe. Donc, c'est avant le test. On a un rendez-vous psychologue normal, quoi. Et elle me dit, mais... franchement, je devrais pas vous dire ça, parce que bah, forcément, on n'a pas passé les tests. Mais avec tout ce que vous me racontez, avec votre fonctionnement, etc., je pense qu'il y a clairement un haut potentiel qui se cache. Et là, je doute encore plus. Je me dis, mais waouh, il y a une psychologue qui est en train de confirmer ce que je pense, ce que Claude pense, et ce que tout le monde ne pense pas, en fait. Tout le monde me dit, mais non, c'est pas possible. Et là, il y a quelqu'un qui me dit oui. Je vais passer le test un mois après, en été, donc je suis toujours dans ma recherche d'appart en parallèle que je ne trouve pas. Bref, je passe les tests. C'est très stressant. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est comme si mon cerveau fonctionnait en pilote automatique. Je réponds à tout, du tac au tac. Comme si j'étais plus moi. Genre, comme si c'était mon cerveau qui parlait, mais c'était pas la Manon avec tous ses filtres, avec tout ça. Donc je passe le test. J'attends une semaine, le temps qu'elle prépare, ben voilà, qu'elle analyse le test, qu'elle fasse la restitution. Je retourne dans ce bureau de psychologue, toujours avec ce syndrome de l'imposteur. Et pendant une heure, elle me fait une restitution. Et elle me dit, du coup, ton QI, il est de 156. Et là, je bug un peu, parce que je me dis, mais 130, c'est le minimum. Ouais. 160, c'est le maximum. C'est Einstein qui avait 160. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis à 4 points, en fait. Elle me dit, oui, totalement. Dans ma carrière, je n'ai rencontré que 4 personnes comme toi. Et tu n'aurais pas dû sauter une classe, mais tu aurais dû en sauter deux. Et là... Là, c'est le bordel dans ma tête. Je ressors du rendez-vous. J'appelle tout de suite Claude, qui est un peu en panique, parce qu'il me dit « Waouh, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un QI supérieur au mien. Ça se trouve, tu vas t'embêter avec moi. Tu vas vite te sentir... tu vas te faire chier avec moi, en fait. On va pas avoir de sujet de conversation à vitam aeternam. » Je dis « Mais non, parce qu'on a cet écart d'âge, en fait, qui fait notre force, qui fait notre complémentarité. » Et s'ensuit d'une période, en fait, où je réfléchis beaucoup et je commence à avoir de plus en plus confiance en moi. Je laisse ce caméléon, je laisse cette Manon qui a toujours peur, qui s'excuse tout le temps, qui n'a jamais confiance en elle, qui n'a jamais confiance en ce qu'elle peut faire. Et je commence à me dire, mais en fait, je pourrais bosser pour la NASA. Alors j'ai pas du tout envie de bosser pour la NASA. Moi, ça m'intéresse pas du tout, je suis nulle en maths, hein. J'ai jamais eu la moyenne. En fait, j'aurais pu faire des choses incroyables. Et je commence à prendre conscience en mes capacités, je commence à prendre confiance en moi. Et s'ensuit une phase de reconstruction. Et donc, ben là, je me dis, c'est ma nouvelle vie, en fait. Je suis consciente de mes capacités intellectuelles, entre guillemets, même si pour moi, c'est plus avoir une capacité de mémorisation plus intense et une RAM, comme diraient les guides, donc une vitesse de traitement plus accrue. Mais c'est tout. Et donc, on est au mois d'août 2019, et je me dis, bon, il faut que je parte. Et là, Claude m'a dit, mais viens en Andorre. Au début, je dis, non, je viens pas. Et je prends un appart, toute seule, parce que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me construire seule, d'habiter seule, de me construire moi. Et s'ensuit la phase de reconstruction. On bosse ensemble déjà, donc on est dans le même bureau, ça se passe très bien. Pour la première fois, je me sens bien dans mon travail, il n'y a aucune ombre au tableau. Mais j'attends quelques mois avant d'emménager avec lui, et en fait on emménage un peu par hasard, je pense comme beaucoup de jeunes couples, pendant le premier confinement, en mars 2020. La cohabitation se fait très bien, déjà on avait un rythme où lui venait dormir à peu près tous les deux jours chez moi, dans mon petit appart. Moi je venais de temps en temps aussi dormir chez lui. Et donc on emménage ensemble en mars 2020, on a ce travail, on commence à perdre beaucoup de clients parce que forcément, crise du Covid, moins de chiffre d'affaires chez nos clients, donc les clients se passent de nos services malheureusement. Et là, on a une période en fait où on est obligé de changer, de déménager. Donc moi je quitte mon appart, lui quitte sa maison et on emménage dans un appart plus grand que le mien mais plus petit que sa maison et on commence notre vie tous les deux. Donc une vie à deux, de couple, avec beaucoup de travail, on reconstruit tout notre business. Et notre amour est toujours aussi fort, toujours très fusionnel, on ne sait pas se séparer. Hein. Il y a un moment donné où on est en juin 2020, je vais voir ma famille à Nantes, qui n'accepte pas ma relation avec Claude, hein, pas du tout. Je pars 2 semaines, et ces 2 semaines ont été très dures pour me séparer de lui. Et je reviens, je me dis, mais plus jamais je ferai ça. Et on fait tout ensemble, on travaille ensemble, on est même dans le même bureau, sur la même table. On fait tout ensemble, on vit ensemble. Il y a les enfants qui viennent aussi pendant les vacances. La relation se construit beaucoup pendant les vacances d'été, les premières vacances d'été qu'on passe tous ensemble. Ça se passe très bien avec ses enfants. Je suis leur belle maman, en fait. Pour le grand, je suis même très très proche de lui. Et parfois, il me dit des choses qu'il ne dirait pas à ses parents. Et je suis un peu comme... C'est un peu bizarre de dire ça, mais un peu comme sa grande sœur. Donc, les choses se passent et elles se passent très bien. Elles se passent de manière très fluide. Mais j'ai toujours cette vie à Nantes qui me retient, où je peux pas être moi-même. Et à chaque fois que je reviens sur Nantes, je reprends ce rôle de caméléon. Je ne parle pas de mon haut potentiel. Je suis juste la Manon qu'ils veulent que je sois. Et c'est tout. Et je ne parle pas de Claude, je ne parle pas de mes beaux enfants, je ne parle de rien. Je suis juste leur fille, en fait, à mes parents. l'année dernière, donc en juin 2021, il me demande en mariage. Donc, je m'y attendais pas vraiment au début. En fait, ça s'est fait de manière un peu... On arrive, il me dit comme ça, il rentre du centre-ville, il me dit bah, « j'aimerais bien aller me balader ». Je dis « ok, d'accord bon, ». Bah, je savais qu'il y avait un truc, moi je capte toujours quand il est surpris. Bon, on va en haut d'un point de vue qu'on aime bien, d'un col, donc en haut d'une montagne. J'entends un bruit bizarre plus bas, je dis « mais c'est quoi ça ?». On était assis sur un tronc d'arbre mort en fait, qui est magnifique, mais un truc très rustique. Et puis il arrive et puis il me tend un boîtier en fait. Et j'ouvre et il y a une bague. Bon, elle n'est pas à ma taille forcément parce que voilà, il n'a pas eu le temps le pauvre. Et du coup il me dit « est-ce que tu veux te marier avec moi ?» je crois qu'il m'a dit. Et je lui dis « bah ouais ». Et je décide de rentrer sur Nantes et il y a un gros clash avec ma mère et je sens qu'en fait... Elle n'accepte pas ce mariage, elle n'accepte pas. Elle me demande d'ailleurs toujours des nouvelles de José qui depuis sort avec ma meilleure amie, enfin mon ex-meilleure amie. Donc elle me demande souvent de ses nouvelles alors qu'elle sait que bah, ça me fait du mal de parler de ça. J'ai pas envie d'en parler, c'est mon ancienne vie, c'est plus ma vie de maintenant. Et donc il y a un gros clash. Et les mois se passent, la liaison se fait toujours pas en fait entre mon mariage, mes parents, etc. C'est très compliqué. Je veux un mariage qui me ressemble et je veux un mariage où Claude se sente à l'aise. Donc avec nos amis ici... avec mes parents, s'ils veulent venir, ma sœur, mais surtout avec sa famille à lui, ses enfants. Voilà, c'est un mariage totalement atypique qui nous ressemble. Et normalement, c'est prévu pour août. On n'a pas encore la date. La relation que j'ai avec Claude aujourd'hui, elle est au-delà d'être fusionnelle, en fait, on se comprend énormément. C'est comme si on était sur la même longueur d'onde. Et c'est facile pour tout. C'est pour... parfois, il y a des émotions que je ressens, que quelqu'un qui serait pas au potentiel ne ressentirait pas forcément ou comprendrait pas, ou même le mécanisme en fait qui mène à ses émotions, et lui me comprend. Il m'encourage énormément, parce que j'avais pas l'habitude avec mes parents et avec José. J'ai lancé mon blog, j'ai lancé une chaîne YouTube, il m'a tout le temps encouragée. Je pense que j'aurais pu continuer mon histoire d'amour avec José si lui avait juste essayé d'accepter ce haut potentiel et de me comprendre. Mais moi, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé un peu ma flamelle jumelle, comme on aime le dire, et on est super heureux comme ça. Et je pense que la différence d'âge, c'est une force énorme, parce que lui, il a l'expérience, même si j'ai, entre guillemets, en fait, 10 points de QI en plus, ça peut paraître peu, mais entre 130 et 135, c'est comme s'il y avait deux planètes d'écart, mais entre 146 et 156, c'est un peu comme s'il y avait une galaxie. Donc pour nous, c'est un gap énorme, mais on le voit pas, parce qu'il a 20 ans de plus, parce qu'il a énormément d'expérience. Et c'est juste que j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble. J'ai trouvé mon double, mais en complémentaire. C'est très compliqué à expliquer. On a le même fonctionnement, on est pareil, mais on a nos expériences de vie qui sont totalement différentes. Et c'est ce qui fait notre force. Les gens le disent quand nos amis, etc., quand ils nous voient, ils nous disent « Mais vous êtes fous amoureux l'un de l'autre. » Et on est dingue l'un de l'autre. Et j'espère que ça va continuer comme ça.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.